Je vous invite à lire Apocalypse chapitre 12 avec moi. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui a séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Frères et sœurs, nous sommes tranquillement, doucement, en train de vieillir en territoire ennemi. En territoire ennemi. Partout dans ce monde, on voit la dégradation de toutes sortes de choses, de valeurs morales, etc. Mais savez-vous où nous en sommes? Eh bien, l'Église de Jésus-Christ est en train de vivre les douleurs de l'enfantement. Cette femme dont on vient de lire dans la Bible, c'est l'Église. Elle va accoucher. De quoi? De qui? L'Apocalypse 12 nous dit qu'elle va accoucher d'un fils. Dans certains manuscrits, c'est écrit un fils mâle. Ce fils mâle est en train de sortir de l'Église. Quelques membres de ce fils mâle est déjà sorti. Et ce sont les vainqueurs d'Apocalypse 3, 21, quand il est dit que Jésus est à la porte et il frappe. Et si quelqu'un entend sa voix, alors il ouvre la porte et puis il s'en va, il sort de l'Église, il part avec Jésus pour avoir une véritable communion fraternelle, une véritable vie de communauté avec Jésus. Celui qui vaincra, Jésus dit, donc celui qui sortira de l'Église, hein, un peu plus loin, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à toutes ces horreurs qui vont lui arriver. Jésus dit, à celui qui vaincra, qui sortira donc, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et puis il régnera, mais avec une verge de fer. On a lu ça tout à l'heure dans Apocalypse 12. Comme moi j'ai vaincu et comme moi je me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà, nous assierons sur le trône pour régner. Alors ce que nous vivons là, ce que nous ressentons, que ce soit à l'échelle de la communauté, que ce soit à l'échelle du pays, que ce soit à l'échelle mondiale, ou même dans l'univers, il y a des bouleversements. Toutes ces choses-là qui se produisent, ce sont les contractions avant l'accouchement. L'accouchement. Ce fils qui doit sortir de l'Église. Ce fils qui est produit par l'Église, qui est dans l'Église et qui doit sortir. Ce fils mâle va se trouver, quand il va sortir, en face d'un dragon. Le dragon, on vient de le lire, c'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire. Et c'est pour cela que ce fils va être enlevé vers Dieu, vers son trône, aussitôt, rapidement. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de délai. On trouve ça dans Apocalypse 10, je crois, 16, quelque chose comme ça. Quand le septième ange aura sonné de sa trompette, ça sera terminé, il n'y aura plus de délai. Ce fils sera ravi, enlevé, kidnappé, emmené d'ici-bas vers Dieu. Et l'Église, telle qu'elle est aujourd'hui, de nos jours, ne va pas être enlevée. Ceux qui pensent ça comme ça, avec légèreté, s'illusionnent. Voilà pourquoi Dieu a encore suscité son prophète David Wilkerson pour parler juste avant de mourir en disant « L'enlèvement, ça n'est pas une plaisanterie ». Et il explique toutes ces choses, combien c'est sérieux et qu'on ne rigole pas avec ça. Ce n'est pas une plaisanterie. Il nous est dit que elle ne va pas être enlevée et qu'elle devra fuir au désert. Nous, nous savons où, dans quel désert. On l'a étudié. Tout ça se trouve dans le livre le mystère de l'emblot révélé, mais ça se trouve aussi dans le prochain livre qui va sortir dans les semaines qui viennent, qui s'appelle Parole cachée. Un bouquin encore de 400 pages. Réjouis qu'on l'ait, ce bouquin. Ça va être un bon moyen pour que les gens apprennent, comprennent ce que c'est que toutes ces choses-là. Ce n'est que ce fils, que cet enfant, que cet être qui va sortir de l'Église, qui va être enlevé. Par l'Église. Le dragon voudra dévorer ce fils qui va sortir, mais il est dit que l'archange Michel va commencer à lui faire la guerre. Il va y avoir une guerre entre l'archange Michel et les anges qui sont avec lui et le dragon avec ses anges à lui. Et comme le fils va être enlevé, ce fils qui va sortir de l'Église, cet être qui va sortir de l'Église, qu'on appelle ailleurs l'épouse, toute l'Église n'est pas l'épouse. Dans l'Église, il y a les vierges folles, il y a les vierges sages, il n'y a que les sages qui vont vraiment partir, les autres vont rester. Eh bien, quand ce fils va être enlevé au travers par Dieu, il va traverser les domaines des principautés infernales dans les airs à la rencontre du Seigneur. Est-ce que vous avez lu ça dans 1 Thessaloniciens 4:16? Dans les airs, nous allons partir dans les airs. 1 Thessaloniciens 4:17 plus exactement. Et nous apprenons par la Bible que le dragon, il est le prince de la puissance de l'air. On trouve ça dans Éphésiens 2:2. 2:2. Vous voyez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, des puissances, des autorités dans les lieux célestes, dans l'air qui entoure cette terre, qui donne une ambiance ici-bas sur cette terre. L'archange Michel et ses anges précipiteront le dragon et ses démons sur terre à ce moment-là. En ce moment, les démons et le dragon ne sont pas sur terre, ils viennent se promener sur terre. Mais tant que le Saint-Esprit est ici, ils ne peuvent pas agir pleinement. Ils viennent se promener. Un jour, de temps en temps, ils viennent vers Dieu, puis ils racontent ce qu'ils font. Hein, vous lisez le chapitre 1 de Job. Voilà, que les anges viennent vers Dieu, puis parmi eux, il y a Satan. Et Dieu dit, alors, d'où tu viens, toi? Il dit, sur la terre, je viens me promener. Ah, Dieu lui dit, t'as vu, t'as remarqué mon serviteur Job? Et il commence à discuter. Le diable n'habite pas sur la terre, il habite dans l'atmosphère, dans l'air, juste en dessus de nous, là, et puis mais il va être précipité sur la terre. Quand? Quand ce fils sera enlevé. Parce qu'avec le fils qui sera enlevé, l'Esprit de Dieu lui-même sera enlevé, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Donc il va pouvoir donner libre cours à toute sa violence, toute sa méchanceté, toute sa fureur. La Bible nous dit que ces démons-là n'auront plus leur place dans les lieux célestes, dans les airs, et leur place sera trouvée sur terre et non pas dans le ciel. L'Apocalypse 12:8, on vient de le lire. Le règne de Dieu commencera alors dans les lieux célestes, dans ces endroits-là qui sont infestés par ces démons. Là, il va commencer à établir son règne et le diable sera cantonné sur cette toute petite planète, la Terre, un endroit minuscule au milieu des univers, parce que je crois que c'est beaucoup plus grand. On dit univers, je me demande si on ne pourrait pas dire multivers à la place de univers. Unis, ça fait comme si on était seul. Hein? Moi, je crois qu'il y a des univers, vous ne croyez pas? C'est juste une idée, hein? Ce n'est pas une doctrine. Le règne de Dieu commencera donc dans les lieux célestes. Le dragon commencera son règne total sur la terre sans être embêté par le Saint-Esprit parce qu'il ne sera plus là. Et ce règne durera 7 ans. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Nous sommes dans le temps des contractions. Et toutes les femmes qui ont accouché, elles savent comment ça se passe, les contractions. Il y en a des douces, ça devient de plus en plus fort et de plus en plus rapproché. Non? Bon, je ne sais pas, je n'ai jamais accouché, mais j'ai vu ma femme, j'ai entendu d'autres sœurs qui ont raconté, hein, mais j'ai aussi vu ça. Ben voilà, quoi, on sait. Et le fils qui représente, c'est les vainqueurs des 7 âges de l'Église, ce fils, il ressent les contractions. Vous croyez que quand vous accouchez, mesdames, vous êtes les seules à souffrir, le bébé dedans, il sent aussi qu'il y a quelque chose qui se passe, que ça bouge et il bouge lui-même. Et il y a des contractions, des chocs. Et le dragon voit très bien que l'Église va accoucher. Il est très conscient de ça. Elle crie. Elle crie. Qu'est-ce qu'elle crie? Sa misère. Elle crie sa misère. Elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. Elle crie comme une malade. Et lui se tient là devant elle, prêt à dévorer l'enfant qui va sortir. Et nous, on a déjà commencé à sortir. On est vraiment des courageux, hein, on est sortis de tous ces systèmes-là, de dénominations religieuses, montées par les êtres humains, et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. On a déjà passé là, on est déjà dehors. Vous savez que ce corps, cet enfant, ce corps, il a plusieurs membres aussi. Eh bien, nous sommes de ceux qui sont déjà sortis. On est hors des âges de l'Église. Amen. Et le dragon, il cherche à nous dévorer, mes frères et sœurs. Il cherche à nous bouffer. C'est un combat spirituel. Mais gloire à Dieu, malgré l'opposition, malgré les épreuves, malgré les tentations, nous ne fléchirons pas. On ne flanchera pas. Amen. Je ne flancherai pas. Je ne veux pas lui faire ce plaisir. Non, mais, mes frères et sœurs, en ma qualité de serviteur de Dieu, je vous promets que vous serez protégés des adversaires, de l'adversaire, de ses attaques, si vous êtes attentifs à ce que le Saint-Esprit dit. Il y a un si. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit en ce moment? Il dit, tu seras guidé par mes murmures. Le Saint-Esprit va nous murmurer des choses, va nous parler, il parle doucement, il ne crie pas, il parle doucement. Et il nous avertira des dangers. Il dit, si tu tiens compte de mes avertissements, notre Père Céleste te bénira pour que tu sois de nouveau uni au tien dans l'éternité. Voilà ce que le Saint-Esprit dit en ce moment à cet enfant qui est en train de sortir. Mais c'est une guerre. C'est une guerre d'ordre, c'est spirituel. Tu dois être vaillant, tu dois être veillant, tu dois être priant, tu dois être obéissant, tu dois te sanctifier. Et tu dois servir Jésus-Christ et sa famille. Alors, qu'est-ce que c'est? Être veillant, priant, se sanctifier. Eh bien, premièrement, mes frères et sœurs, on doit agir et s'habiller avec pudeur. Parce que c'est cela que les impurs regardent en premier, ce qui est visible. S'ils voient que vous êtes habillé en impudique, vous pouvez dire les plus belles paroles de Jésus, ils savent très bien que Jésus n'est pas un impudique. Vous comprenez? Donc vous devez faire attention à votre habillement. Parce que c'est cela, c'est à cela que les gens mesurent les paroles de votre témoignage. Mais pas seulement à cela. Parlez avec révérence, pas n'importe comment. Écoutez aussi avec respect. Et évitez l'immoralité, évitez toutes ces choses et toutes ces pratiques dégradantes, tout ce qui nuit à votre santé. Les incroyants vous observent pour voir si vous êtes comme eux ou comme Christ. Vous savez que le mot chrétien, ça signifie comme Christ. Eh bien, les incroyants s'attendent à ce qu'un chrétien soit parfait. Non? Ils savent bien que ce n'est pas possible. Mais ils nous en demandent beaucoup. Et ils vous observent pour voir si vous êtes de ceux qui disent blablabla, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ou si vous êtes vraiment authentique. Alors prenez le contrôle sur votre vie au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vous a sauvé, et soyez vaillants. Prenez le contrôle, ne vous laissez pas contrôler par des mauvais esprits. Mes frères et sœurs, nous avons à rendre un témoignage à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas que nous devons parler aux gens tout le temps, 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 tout le temps. Ça signifie que notre vie, notre comportement doit rendre, tout cela doit rendre un témoignage que Jésus-Christ est avec nous, qu'il est avec nous, mais que nous sommes volontairement avec lui. Les gens veulent voir Jésus en vous. Ils ne peuvent pas voir Jésus de plus près que quand ils vous voient. Alors vous devez être digne de foi à leurs yeux. Vous devez être digne de confiance. C'est cela donner un bon témoignage. Après, ce que vous allez dire, ça va faire son chemin. Mais si, au premier coup d'œil, ils voient que c'est pas tout à fait ça, que vous leur ressemblez plus à eux qu'à Christ, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je disais toujours, je veux pas suivre un pasteur qui roule dans une voiture toute pourrie, parce qu'il va me conduire où? Eh ben, à lui ressembler. Son enseignement, ça le conduit à quoi? D'avoir une voiture toute pourrie, d'avoir les habits de la mode d'il y a 30 ans. Non, moi, je veux suivre quelqu'un qui réussit. N'est-ce pas? Eh bien, les gens sont la même chose, ils sont intelligents, ils veulent suivre, ils vous suivront s'ils voient que vous êtes comme Christ et non pas comme eux. Amen. Alors, c'est pourquoi nous devons faire attention à notre témoignage, pas seulement parler, mais aussi de ce que nous vivons, de ce que nous présentons aux gens. Les gens veulent voir. Quand ils vous regardent, ils veulent voir Jésus, alors que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Alors, pardon, mais quand j'entends certains prédicateurs d'aujourd'hui, ils disent les mots de Jésus, mais leur comportement, même sur l'estrade, ben, c'est pas ça. Ça montre des démons, plutôt. Ça montre des démons. Paul disait d'eux, il voulait plus casser la tête. Il en avait marre. J'en ai marre, comme disait Osborne. Et il voulait plus casser la tête. Il en était arrivé à dire, après tout, peu importe, pourvu que l'évangile soit annoncé. Mais nous, on ne veut pas être de ceux dont Paul dit, ils font comme ils peuvent. Hein. De toute façon, pourvu que l'évangile soit annoncé. Non. Nous sommes sortis de l'église et nous ne voulons pas être dévorés par le dragon. À notre sortie, nous voulons véritablement être des vrais vainqueurs, c'est-à-dire des vrais témoins en parole et en acte. J'ai lu un beau témoignage, c'est ça qui a inspiré ce message de ce soir. J'ai reçu ça sur le net ce matin. C'est une lettre qu'a reçue le président de l'église des Mormons. Il s'appelle le président, c'est un prophète, enfin je sais, ils ont toutes sortes de termes que nous ne connaissons pas bien, nous autres. Mais voilà, il a reçu une lettre et ils ont publié cette lettre parce qu'ils la trouvent très belle. Et voilà ce qui est écrit dans cette lettre. L'année dernière, le mari de ma sœur, donc c'est le président qui nous montre une lettre qu'il a reçue, donc il nous dit, voilà, cette lettre dit, l'année dernière, le mari de ma sœur, Ton Brown, a été diagnostiqué d'un cancer du cerveau et on lui donnait un an à vivre. Il est mort la semaine dernière. Sa femme a raconté dans cette lettre adressé au président. Pendant cette année passée, Rick, qui est l'évêque de la paroisse, donc des Mormons, et Dan ont passé des heures innombrables avec ma sœur et sa famille. Ils ont prié à plusieurs reprises pour Tom et leurs épouses ont apporté des repas. Ils ont déneigé à la pelle nos trottoirs pendant l'hiver et chaque fois qu'ils sont venus, ils ont demandé à ma sœur si elle avait besoin d'aide et c'était là leur vraie intention. Ça ne leur était pas important que ma famille fasse partie de l'Église des Saints des Derniers Jours. Ces deux hommes vivent vraiment leur foi et je me sens très ému par leur compassion et leur exemple. Et la dame explique davantage, elle dit, j'écris cette lettre donc au président pour vous dire que grâce à l'exemple de ces deux hommes, je ne critiquerai plus jamais votre Église, mais aussi je ne tolérerai plus les critiques faites par les autres en ma présence. Votre Église a mon plus profond respect. C'est magnifique, n'est-ce pas? Elle ne dit pas qu'elle s'est convertie. Elle ne dit pas ça. Mais ça, c'est un bon témoignage. Tom, il est décédé la semaine dernière. Mais en ce moment, nous savons que l'Évangile lui est prêché dans le séjour des morts, selon 1 Pierre 4:6. La femme de Tom et la sœur de Tom se sont fait des nouveaux amis, qui sont Rick et l'autre qui s'appelle, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent l'autre, Dan, qui sont des Mormons. Hein. Ils se sont fait des amis avec des gens respectables, qui aiment Dieu, qui sont serviables, qui donnent un exemple édifiant de ce que c'est qu'un chrétien, de ce que c'est qu'un comme Christ. À mon avis, je pense que ces gens, logiquement, vont aller au moins à une réunion pour voir qu'est-ce que c'est ces fameux Mormons dont on dit tant de mal. Et ils auront envie de savoir et ils auront la possibilité d'écouter correctement la parole de Dieu prêchée. Amen. Je ne sais pas vous qui m'écoutez sur le net ou vous qui regardez sur la télévision là, mais nous ici au sanctuary, ce n'est pas important la religion que vous avez. Pour nous, il y a des véritables chrétiens partout. Et il y a des véritables démons dans toutes les églises aussi. Nous, ici au sanctuary, ce que nous voulons, les disciples de Jésus que nous sommes, nous nous sommes engagés à choisir de suivre l'exemple de Jésus, notre Sauveur. Et mes frères et sœurs, nous savons que les opportunités sont infinies. Alors, mes frères et sœurs, souvenez-vous de qui vous êtes. C'est ça qui est important. Vous êtes des fils et des filles de notre Père Céleste. Vous êtes d'une race spéciale, vous êtes des enfants de Dieu. Alors vivez de telle façon que les gens reconnaissent cela et que vous soyez un exemple, une lumière dans ce monde. Les gens ont besoin de ça, ils n'ont pas besoin que vous leur ressembliez. Ma prière pour vous, c'est que vous soyez réellement des lumières dans ce monde qui est perverti, qui est sale, qui est pollué par les démons. Et ils ont vraiment... Ma prière, c'est que vous soyez vraiment des lumières. Ma prière est que vous êtes... Que cette lumière, pendant que vous êtes en train d'écouter ce que je vous dis là, que cette lumière soit votre bénédiction. Pendant que je suis en train de vous parler, de suivre Jésus, de suivre l'exemple de ceux qui se sanctifient. Vous avez fait ce choix. Tenez bon, tenez ferme, sinon vous êtes bouffé. Rappelez-vous, il y a un dragon. Je ne plaisante pas. Je sais qu'il y a des chrétiens qui n'y croient pas. Moi j'y crois, la Bible dit, alors je crois. Soyez renouvelés dans votre intelligence morale et spirituelle. Souvenez-vous que ce dragon cherche à vous bouffer. Et dans un autre texte, il nous est dit, le diable est comme un loup rugissant, tournant autour de vous, cherchant qui va pouvoir dévorer. Il ne va pas pouvoir dévorer quelqu'un qui se sanctifie, il ne va pas pouvoir dévorer quelqu'un qui prie, il ne va pas pouvoir dévorer quelqu'un qui est obéissant, il ne va pas pouvoir dévorer quelqu'un qui est soumis à la parole de Dieu et à l'Église instituée par Dieu. Il ne pourra pas dévorer ceux que Dieu protège. Mais savez-vous, Dieu ne vous protège pas systématiquement parce que vous avez un jour été plongé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. On dit toujours, si vous faites du 160 à l'heure sur la route où c'est marqué 90, Dieu n'est plus dans votre voiture. Et si vous vous permettez de faire n'importe quoi, Dieu n'est pas tenu de vous respecter, de vous protéger. Si vous ne le respectez pas, lui, il n'est pas tenu de vous protéger. Dieu vous voit en ce moment et il vous tend la main. Il vous tend la main. Il y a des chocs. C'est pour ça qu'il vous tend la main, pour vous tenir, pour vous aider. Il y a des contractions violentes. Alors il vous tend la main pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous encourager. Il ressent ces chocs et vous les ressentez, ces chocs. C'est des contractions et il y en a de plus en plus et elles sont de plus en plus violentes, elles sont de plus en plus rapprochées parce qu'on arrive au bout. Le diable sait qu'il a peu de temps. Il est là. L'autre jour, je disais à un chrétien, mais le diable, c'est une créature qui ne peut être qu'à une place à la fois. Où se trouve-t-il ? Devant l'église, cherchant à voir c'est qui va sortir que je le bouffe. L'Église est prête à accoucher. Le dragon vous attend devant l'Église pour vous dévorer. Mais il ne pourra pas vous dévorer si vous êtes vraiment cet enfant vainqueur qui sort. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Mais mes frères et sœurs, quand il y a un accouchement, moi je n'ai pas voulu voir, hein, mais il y a des frères ici, ils ont été voir leur femme qui accouchait. Moi je ne peux pas, parce que j'aurais tourné de l'œil. Je suis doudouille, hein. Mais il y a les frères et des frères, ils m'ont raconté, il n'y a pas que l'enfant qui sort hein, à la naissance du bébé. Il y a quoi qui sort ? Il y a de l'eau, il y a du sang, il y a du placenta, toutes sortes de choses qui sortent. Donc, le dragon, il s'en fiche de ça. Ce qu'il veut, c'est manger l'enfant. Il y a plein de choses qui sortent de l'église. Plein de gens en rébellion qui sortent de l'église. Nous ne sortons pas de l'église parce que nous sommes en rébellion. Nous sortons de l'Église parce que nous obéissons à Jésus pour vivre la véritable Église, qui est une communauté. Dieu n'enlèvera pas non plus tout ce qui sort de l'Église. Qu'est-ce que vous voulez qu'il foute avec le placenta ? Il ne le veut pas. Il laisse sortir, c'était utile un temps, et c'est blatch. Il n'enlèvera que ce fils vainqueur, que ce sanctifié, que cet être qui était vainqueur. Mes frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Veillons à notre témoignage personnel. Bien sûr, personne n'est parfait. Bien sûr, personne n'est parfait. Mais que personne ne soit trouvé obstiné dans son cœur. C'est l'obstination du peuple d'Israël qui a fait qu'ils ne sont pas entrés dans le pays de la promesse, mes frères et sœurs. L'obstination ! Le cou roide ! Je suis toujours étonné qu'on garde toujours ce terme dans la Bible, le cou roide. Bien sûr, ce dragon se tient devant cette femme, l'Église, mais ce n'est pas à cause de la peur du dragon que vous devez vous sanctifier. Ce n'est pas ça qui doit motiver votre acte de sanctification, ce n'est pas la peur du dragon, mais non. C'est la crainte de Dieu qui doit motiver votre désir de vous sanctifier. Jésus revient bientôt pour cet enfant, pour l'enlever. Alors, soyez personnellement prêts. Supportez tous ces chocs qui vous arrivent. À certains, ce sera un choc physique, une maladie, d'autres, ça sera un choc mental, d'autres, ça sera un choc financier, d'autres, ça sera un accident, d'autres, ça sera un deuil, d'autres, ça sera une persécution, d'autres, ça sera... Que sais-je, moi? Que sais-je? Un manque d'argent, que sais-je? On connaît bien le diable et toutes ses bannies, ça fait des milliers d'années qu'il fait la même chose, c'est toujours simplement qu'il y a des gens différents qui subissent ces chocs, mais là, les chocs sont de plus en plus forts, de plus en plus répétés, de plus en plus violents. Supportez ces chocs, supportez ces contractions, supportez ces douleurs, comptez sur le Saint-Esprit pour vous aider et pour aussi pour vous aider à aider les autres. Pas simplement dire « Seigneur, aide-moi ». Non, on peut aussi aider les autres parce que le Saint-Esprit est en nous. Quand il est en nous, on peut aussi aider les autres. Amen. Pensez à toutes ces choses, méditez-les et si seulement vous les pratiquez, en tant que serviteur de Dieu, je vous promets, vous ne serez pas tenté au-delà de vos forces. Amen. Merci Jésus. De ce que tu bénis nos cœurs et nos corps et nos esprits maintenant. Et merci de nous permettre de méditer ces choses, de penser à tout cela et de ne plus être une personne victime, mais que d'être une personne vainqueur. Merci Jésus. Amen. Amen.